Et vous écoutez France Culture. Si on pouvait voir le monde avec un œil de verre, le monde aurait-il l'air plus fragile ? Émile Ferris. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui recevra ce soir pour le premier tome de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, la dessinatrice Émile Ferris, à la fois vertigineux livre de bord intérieur, journal onirique d'une fillette pétrie de culture horrifique et de vision du Chicago pauvre des années 60. La découverte graphique de cette rentrée, une publication, Monsieur Toussaint Louverture. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, un mauvais genre consacré ce soir à la bande dessinée, enfin à l'art graphique plutôt, puisque l'ouvrage dont nous allons parler ce soir, qui est, je le répète, l'événement le plus important survenu dans le secteur du graphisme, de l'illustration et de la bande dessinée en cette rentrée 2018, eh bien, c'est bien évidemment Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, de Émile Ferris, une surprise que nous font les éditions Monsieur Toussaint à l'ouverture. C'est un livre premier qui fait quand même 476 pages et chaque page est véritablement une merveille. Nous allons en discuter ce soir avec sa créatrice, Émile Ferris. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et puis merci pour cet extraordinaire livre que vous nous offrez et qu'en tout cas nous découvrons en France avec un grand succès puisque les retirages s'alignent et le nombre d'exemplaires vendus en librairie est déjà extrêmement important. Notre entretien sera traduit par Xavier Combes. Bonsoir Xavier.
Bonsoir François.
Et je serai bien évidemment avec Antoine Guillot. Comment va Antoine Guillot ?
Eh bien, il va fort bien François.
Il s'est remis de la lecture de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres.
Est-ce qu'on s'en remet jamais vraiment ?
Voilà.
Je suis encore dedans. Et je suis encore habité et je suis très frustré parce que vous l'avez dit, c'est un livre premier. Donc, au bout de cette aventure de 400 pages, on n'attend qu'une chose, les 400 pages qui suivent.
Voilà, il faut bien que son auteur soit conscient de la chose et qu'on n'attend qu'une chose, c'est que ça continue et qu'on retrouve Karen et tous les personnages donc, qui habitent ce premier tome. On peut signaler un événement qui n'est pas si loin d'Émile Ferris à la fin de la semaine prochaine, monsieur Antoine.
Oui, ce sont les grands colloques de Zapologie, voilà, qui vont avoir lieu à la Philharmonie de Paris à partir de vendredi prochain, sur 2 jours, avec également des concerts. Et nous aurons le plaisir, n'est-ce pas, François ?
Nous serons là.
Avec l'ami Pacôme Thielman, d'animer tous ces colloques. Alors, je ne sais pas de quoi vous allez parler, mais moi, ça va être la dimension graphique de Frank Zappa, c'est-à-dire Frank Zappa au cinéma, Frank Zappa à la télévision, les couvertures de Frank Zappa, et puis l'exploration de ce livre incroyable qui paraît enfin en France, Vamorous, le seul vrai authentique
aux éditions La Rue Musicale,
livre
de la Philharmonie
de Frank Zappa, qui se présente comme un scénario d'un film impossible et comme un grand collage. On est dans la continuité conceptuelle et comment rassembler tout pour faire quelque chose de totalement absurde.
Émile Ferris, vous êtes une fan, au moins quelqu'un qui appréciait Frank Zappa?
Definitely.
Oui, sans l'ombre d'un doute.
One of my early experiences was going to a theater where we all got to sit and watch a Frank Zappa concert.
Un jour, nous sommes allés dans un théâtre. Nous avons assisté à un concert de Frank Zappa. Et ça a changé ma vie. Je devais avoir 15 ans.
It changed what I believed art could be.
Et ça a changé ma perception de l'art et de la musique.
Et c'était, sans vous demander trop de précision, c'était dans quelle ville ce concert ?
Chicago. Yeah. At the 400 Theater. Which was a old theater on the north side.
Un théâtre du north side.
Eh bien, écoutez, moi aussi, j'ai vu Frank Zappa à la Villette, c'était il y a un certain temps, mais effectivement, on n'oublie pas les concerts de Frank Zappa. En tout cas, on en aura deux concerts, là, ou un concert à la semaine prochaine.
Oui, alors il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir The Yellow Shark concert, et puis il va y avoir la suite de 200 Motels qui va être présentée. Enfin, encore, voilà, beaucoup d'événements pour la Zappamanie, la Zappaphilie, la Zappafolie.
Voilà, bien rendez-vous, vous, les Zappaïens, Zappaïennes, la semaine prochaine à la Philharmonie. En attendant, si on va retrouver Europe, c'est quasiment un univers à la Frank Zappa, celui que va nous révéler ce soir Céline Duchesne. Bonsoir Céline.
Bonsoir François. Un univers à la Frank Zappa, je ne sais pas. En tout cas, c'est un univers spécial. C'est celui de Juliette Drouard.
« ces genres existent pour des raisons très superficielles. En fait, les enfants ne savent pas. Il n'y a que quand on devient adulte, à force qu'on nous ait martelé à qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, qu'on a quelque part essentialisé les choses et que ça nous paraît une évidence. Alors que ça tient à peu de choses. Ça tient aux cheveux, ça tient à un habit, ça tient... Et les questions des enfants, c'est est-ce que t'es un homme, est-ce que t'es une femme ? Et c'est pas est-ce que t'as une vulve ou est-ce que t'as un pénis ou est-ce que t'as des seins ? Ça n'a rien à voir, c'est plutôt tu portes une chemise rose, donc t'es une femme. Ou t'as pas de cheveux, donc t'es un homme. Ou t'as une boucle d'oreille, donc tu peux pas être un homme. Mais ça tient à des choses qui sont presque ridicules. Donc finalement, le fait de se raser les cheveux et d'avoir de s'habiller de manière confortable, parce qu'être homme, c'est avant tout avoir pris tous les codes du confort et de l'aisance. C'est pas, je m'habille pas de manière masculine. Je m'habille de manière confortable. Et ce qui enjoint effectivement à rejoindre les codes que les hommes se sont appropriés. Et après, en termes physiques, j'ai l'impression de ma peau. D'être quelqu'un qui se sent bien dans son corps, donc j'ai l'impression de d'être en possession de mes moyens. Je saurais pas comment me décrire autrement.
Juliette Rouard est artiste, art-thérapeute et, ajoute-t-elle aussitôt, militante. La rencontrer, c'est immédiatement s'interroger avec elle sur la génétique et l'androgynie, déconstruire les différentes formes de domination et d'oppression sur les corps, parler des personnes trans, du fait de prendre de la testostérone ou pas, habiter son corps autrement. Des questionnements que l'on retrouve aussi dans ses peintures. There is a beast inside of me est une grande toile figurative au pastel gras où l'on voit deux femmes à la peau bleutée, semblables à des sumo avant le combat, campés sur leurs poings derrière un ciel améthyste où semble se lever un astre rouge. Elles échappent aux catégories animales, humaines, sexuelles, mais semblent porter en elles une calme et forte détermination. Un autre tableau est posé à côté, à première vue moins figuratif, son titre « Vulva ».
Moi, ça me fait penser aussi à la lave, au volcan. C'est sûrement une espèce de mix entre volcano et lave, je sais pas. Et il y a, on a une espèce de ce que je verrais comme une immense calotte glaciaire, une forme de croûte d'iceberg, et à l'intérieur une caverne avec quelque chose qui est très un magma, quoi, qui est très volcanique, et une forme de point d'orgue. Ou peut-être, enfin en tout cas le centre, où moi je vois le clitoris, je vois le sexe, je vois les lèvres, où là tout est très, très rougeoyant, et où ça s'écoule aussi dans la mer. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est endormi, mais qui se réveille. Il y a vraiment cette histoire de volcan, et la difficulté aussi que j'ai eue, et sûrement que beaucoup de personnes et beaucoup de femmes ont eu, en étant dans des injonctions très contradictoires, il y a quelque chose qui est glacé, qui est difficile à appréhender en termes de sexualité, parce qu'on est tout le temps objectisé, donc c'est de l'agression. Finalement, tout le répertoire de la sexualité tourne autour de la violence, et les premiers actes de sexualité sont de l'ordre de la violence. Pour moi, la sexualité, c'est pas quelque chose que... Il y a beaucoup de mouvements sex-positifs, etc., qui sont très intéressants et qui sont, je dirais, meilleurs que le fait de ne pas s'en emparer. Mais pour moi, j'oublie pas que j'ai l'impression que la sexualité, c'est d'abord un autre outil d'oppression et de contention. Et qu'ensuite, peut-être, si... souvent, si on a de la chance, d'ailleurs, et si on s'y attelle, peut-être qu'on peut avoir une reprise de ces codes de la violence pour en jouir, mais qu'il n'y a rien de moins évident. Et du coup, cette glace, pour moi, c'est tout un vécu pendant très longtemps de culpabilité, de ne pas réussir à jouir, de ne pas, malgré une forme de savoir profond, c'est noble aussi de ne pas réussir à jouir ou de ne pas éprouver de plaisir, parce que l'historique de la sexualité est très violent. Et donc, c'est aussi quelque chose que maintenant, je peux revendiquer. comme le fait de pouvoir revendiquer avoir du plaisir. Mais je peux revendiquer aussi de ne pas en avoir et trouver que c'est juste, en fait. Du coup, c'est essayer de trouver d'autres formes qui peuvent être aussi méditatives, qui peuvent être, c'est voilà, trouver d'autres choses. Mais en tout cas, pour moi, dans ce tableau, j'y vois un peu tous ces éléments-là, mais quelque chose où ça se réchauffe quelque part, où il fait un peu plus soleil. Il y a beaucoup de... C'est un soleil d'hiver un petit peu qui est sur ce tableau.
Vulva, le tableau dont vient de nous parler Juliette Drouard, sera exposé à l'occasion des sexes et des femmes, une manifestation pluridisciplinaire créée par Juliette Drouard qui se tiendra du 2 au 10 octobre au 59 Rivoli à Paris. Des sexes et des femmes, c'est une exposition avec les œuvres d'une quinzaine d'artistes dont Tamina Beausoleil, Axel Romeo, Nathalie Tachaud, Rita Renoir, pour ne citer qu'elle, mais ce sera aussi de nombreuses tables rondes et des ateliers autour de la question des sexes, de leur représentation, des violences sexuelles, de l'intersexuation et des transidentités. Il sera possible de participer par exemple à des ateliers d'autogynécologie et sexualité, d'assister au film de Marianne Chargois, Empower, sur les travailleuses du sexe. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur la page de Mauvais Genre. Vous y trouverez le lien vers l'événement des sexes et des femmes. Tous les ateliers sont gratuits, mais il faut s'inscrire avant.
Merci Céline pour cette entrée. Donc Juliette Drouard de notre encyclopédie des mauvais genres. Émile Ferris, mardi dernier, Céline mercredi. A célébré, mercredi dernier, pardon, Céline a célébré à Paris au musée de la chasse. 300 personnes occupaient les lieux, c'est-à-dire le succès de l'opération. Une soirée consacrée entièrement aux sorcières. J'imagine que c'est une figure qui vous est chère, la sorcière, mais la sorcière vue moins comme la sorcière de Salem que comme la sorcière qui est une sorte de éco-warrior ou de militante féministe.
I think artists are witches. I think
les artistes sont des sorcières.
We're spellcasters.
Et en fait, nous jetons des
graphic
sorts.
Form is one of the greatest ways to cast a spell.
L'art graphique, c'est un sort que l'on jette sur la feuille. Les Égyptiens, les hiéroglyphes, l'image, la signification.
I think you're talking about spells.
Eh bien, de quoi s'agit-il? De sorts. C'est un art ancien, celui que de jeter des sorts.
Eh bien, je ne sais pas si on a jeté des sorts mercredi soir, mais tout de même, François, vous avez été envoûté l'espace d'un instant, puisque
oui,
est venu en pleine soirée se poser un oiseau sur votre épaule. Et pour les auditeurs qui ne le savent pas encore, François déteste les oiseaux vivants.
je redoute la présence de l'oiseau vivant, mais celui-là était fort sympathique. Et j'y vois un signe, il faut tout de suite faire de tout cela. Un signe, en tout cas, merci Céline. Et puis maintenant, nous allons justement faire une espèce de grande opération graphique magique en compagnie d'Émile Ferris et donc de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Livre premier, c'est aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Milan Burger, un choix de Laurent Polleret pour ouvrir à cette émission de Mauvais Genre ce soir sur France Culture. On est vraiment très très heureux de rencontrer Émile Ferris, donc l'auteur de Moi ce que j'aime chez les monstres. C'est les monstres, livre premier, parce que Monsieur Guillot, effectivement, c'est un livre premier et c'est un livre monstre. On a souvent avec nous des livres passionnants, des beaux livres, des livres bien faits, intéressants, mais là, ce livre est carrément un monstre. C'est un objet organique presque.
Alors voilà, il faut décrire voilà. L'objet. L'objet se présente comme un assemblage de cahiers à spirale perforés avec trois perforations par page. Et on verra que la perforation a son importance graphique elle-même, hein, le trou qu'il peut y avoir dedans. C'est un livre qui est lourd, donc 400 pages, mais c'est surtout un livre qui nous regarde. Parce que la couverture, c'est un visage en très gros plan d'une femme à la peau bleue. On est la nuit, derrière elle se dessine une bâtisse gothique. C'est la pleine lune, oui, dissimulée par des nuages, et on ne saurait trop décrypter l'expression de ce personnage qui nous regarde soit d'un air effrayé, soit d'un air entraînant. Et si on y regarde de plus près, on a un reflet. On a un reflet dans cette pupille, et ce reflet, c'est un petit être, une petite fille et un loup-garou en même temps. Et qui sont ces personnages? Eh ben, on va le découvrir en y entrant, avec ce côté un peu intimidant de se dire on va rentrer dans un univers qui risque de nous aspirer, et on y est effectivement aspiré. Vous me demandiez tout à l'heure où j'en étais par rapport à ce livre. Je suis encore dedans, je suis encore habité par les personnes que j'y rencontre. Je suis cette petite fille qui, dès le début, va se transformer en loup-garou. On a une transformation digne des plus grands films de loup-garou, avec les os qui craquent, et avec cette expression qui dit déjà beaucoup,
qui se déploie.
Même si ça faisait mal, je me sentais bien. Alors j'ai balancé la tête en arrière, et on balance la tête en arrière avec elle, et on se retrouve en 1967 dans le quartier de Dubtown à Chicago, quartier assez miséreux où se rassemblent tous les immigrés possibles de l'extérieur et de l'intérieur. Vous avez à la fois des latinos de diverses origines, mais aussi ces noirs qui sont montés du sud des États-Unis pour fuir les lynchages et trouver du travail dans les industries du nord. Vous avez les pauvres blancs qui sont descendus des collines, hein, les hillbillies, comme on les appelle, et tous se retrouvent pris dans des appétits, en fait, des appétits divers et variés qui vont rentrer en collision les uns et les autres, et qui vont faire appel aussi à une histoire de monstre beaucoup plus ancienne, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale et même avant, de la République de Weimar. Voilà. Et on entre donc à la fois dans un monde qui est celui d'une époque, dans une fantasmagorie et dans un mélange tout à fait extraordinaire d'ultra-réalisme et de fantasmagorie totale. C'est-à-dire comment vivre un monde tout en étant dans l'imaginaire.
Merci Antoine. Alors Émile Ferris, effectivement, c'est un livre, c'est un objet total, on peut le dire, puisque c'est à la fois un récit au sens littéraire le plus abouti du mot, c'est une extraordinaire épopée graphique, urbaine, à la fois au milieu dans un monde social et dans un monde imaginaire, intérieur, fantasmagorique. C'est aussi une visite du XXe siècle, puisqu'on remonte le temps pour aller à la rencontre de la période peut-être la plus noire de l'histoire de l'Europe, celle de la fin de la République de Weimar et du nazisme. Donc c'est un livre total. Émile Ferris, quelle en est la dimension autobiographique, puisque vous êtes né à Chicago? Quelle est la dimension autobiographique de ce livre? Quelle est la part qu'il y a de vous dans ce personnage de Karen, dans sa manière d'être totalement fan de cette culture des pulps horrifiques et fantastiques, d'aller dans les grands musées, et puis de dessiner à perdre haleine presque?
Completely, in many ways. Although,
oui, c'est autobiographique à bien des égards.
People say these things never happened, but the story is true.
Ces choses n'arrivent jamais, mais l'histoire est vraie. Bien qu'il y ait dans le livre de nombreuses choses que j'ai vécues, moi, pour de vrai, dans le quartier Uptown de Chicago où j'ai vécu, et je connaissais ces gens-là. Certaines de ces personnes sont des composites de plusieurs personnes. J'ai essayé de protéger les innocents dans la mesure du possible. J'ai caché leur identité, si vous voulez. Il y a là des membres de ma famille, des amis, des proches.
And I love how you said this looks back at us.
Merci beaucoup, Antoine, de cette description. Vous dites que le livre nous regarde. Merci, quel compliment. Et vous dites que le livre est un monstre. C'était bel et bien mon intention. C'est un petit peu comme un Frankenstein, ce livre. Il s'est créé lui-même, c'est un genre différent. C'est un mystère.
Mais
je voulais qu'on ait une expérience qui consiste à monter dans un autobus, trouver un cahier à spirale dont on ignore le propriétaire, mais que l'on prend et dans lequel on est happé. Et la vie, ce n'est pas qu'un seul genre, ce n'est pas qu'une seule expérience. Il y a toute notre histoire, nos voisins, notre enfance, nous-mêmes, c'est tout. Donc tous ceux qui nous entourent. Donc c'est une réflexion sur ce moment-là de ma vie, 1968, voilà.
Alors, ce livre témoigne donc de votre vie, de votre expérience. Émile Ferris, est-ce que vous êtes l'image de Karen ? Vous avez été formé à l'art graphique et à votre univers s'est formé de la même manière ? Vous appréciez on parlait de Frank Zappa tout à l'heure, les séries B ou les séries Z, le cinéma populaire fantastique, les pulps, et la découverte, je dirais, de l'art classique, de l'art des musées, qui a une grande part également dans le livre.
Pulp offered me this place where everything was dangerous.
Eh bien, le pulp, ça m'a offert tout ce qui était le danger, le mal et la colère. La colère, c'est bien, d'ailleurs, c'était acceptable d'être en colère.
It offers this place of freedom.
L'horreur, c'est un domaine de liberté.
Possible, and also we face
beaucoup de choses sont possibles et on est en même temps confrontés à notre nature. Nous sommes des prédateurs, nous sommes motivés par le besoin. Les pulps d'horreur expriment cela de façon tout à fait séductrice et attirante. Moi, j'adore ça.
Ce qui est fascinant, c'est que Karen, votre personnage, recopie les couvertures comme on va au Louvre recopier du Courbet ou du Renoir. C'est-à-dire qu'elle est à l'école de ces livres.
Oui, mais pour moi, il n'y a pas de différence entre les grands maîtres et les artistes qui nous ont proposé ces couvertures de pulp. Pourquoi tel message serait-il plus important que d'autres ? Pour moi, l'importance est la même.
Mais je dirais même que c'est à l'inverse et c'est en cela que votre livre Émile Ferris pourrait être presque le livre officiel de mauvais genre, comme on avait parlé de revue officielle de mauvais genre.
C'est-à-dire que la revue sœur, il y aura le livre frère. Là, oui.
Votre personnage a cette approche de découvrir l'art par les pulps, justement, par les revues d'horreur, et ce qui lui donne la porte d'entrée vers l'art dit officiel important. C'est-à-dire que quand elle va dans le musée, elle a le même rapport direct à une œuvre d'art que quand elle lit un comics d'horreur. C'est ce qui va lui permettre, comme son frère va lui enseigner, à se projeter à l'intérieur du tableau, d'y repérer des éléments que nous on appellerait mauvais genre, et l'art catholique en est plein, entre les saints torturés, les têtes coupées, les saints à tête de chien, le personnage de Saint Christophe qu'on n'a plus représenté, après on le représentait avec son Christ sur l'épaule, mais enfin au départ c'est quand même un saint à tête de chien, et la légende dit que c'était vraiment un homme à tête de chien qui dévorait les gens avant de recevoir la grâce et de rencontrer Dieu. Et ce rapport immédiat montre qu'à une époque où ce genre de comics était décrié, on était vraiment un antisocial extrêmement dangereux, et normalement ça devait vous pousser au crime. Enfin, on se souvient du docteur Vertam et de ses théories sur les comics.
Vous montrez des enfants vicieux et pervers.
Très bien dedans que la pop culture est un excellent moyen d'entrer dans la culture dite sérieuse.
Émile Ferris.
Absolutely, I couldn't have put it better myself.
Je ne dirais pas les choses mieux que vous, Antoine.
Yeah, I absolutely experience paintings in the same way, you know.
Les tableaux.
These is definitely based on a person in my life who encouraged me. You know, he pushed me towards paintings and said, "Go in."
De la même façon que les pulps, disent le frère qui est un personnage directeur m'invite, m'a dit, vas-y, entre, entre. Et c'est ce que j'ai fait.
I mean, tout if you're standing in front of a Turner,
si on est devant un tableau de Turner, où il y a de l'obscurité, de l'eau, mais aussi une espèce de mauvais présage. On voit le pouvoir de la Terre devient un monstre. Et on vit cela pleinement. On entre dans le tableau et dans l'univers. Karen fait cela. Elle rentre dans les tableaux pour trouver des choses, découvrir des choses, mais elle sait qu'il y a tout un monde dans un tableau. Donc, il y a un Vermeer avec une magnifique lumière, mais il y a une salle au-delà. Et au-delà, il y a une rue, et il y a une rue, puis il y a un château. Et c'est pas différent du Pulp. Ça vous propose la même expérience. On sait qu'il y a tout cet environnement avec différentes strates. Donc, nous nous refusons à des choses que nous trouvons a priori difficiles, brutales, mais dont nous avons besoin, parce que la nature humaine en a besoin.
Alors ce livre, Émile Ferris, donc moi ce que j'aime c'est les monstres, est un livre de bord, c'est un journal intérieur, c'est un musée imaginaire d'une petite fille, mais ce livre est donc gorgé d'histoire, mais il a aussi une histoire, et qu'il va bien falloir raconter à nos auditeurs, c'est que vous avez été victime, Émile Ferris, d'une piqûre venimeuse redoutable, qui a généré chez vous une maladie extrêmement grave, et qui vous a dépossédé véritablement de tous vos moyens, d'abord peut-être même de votre vie, c'est à manquer d'être le cas, en tout cas de tous vos moyens de vie au quotidien, d'action, et qu'il a fallu pour vous reconquérir, repartir à la reconquête à la fois de l'art du dessin, de l'art de la vie, du mouvement, du corps. Vous avez de toute façon reconquis votre corps et reconquis votre art. Et ça, Antoine Guillot, c'est quand même l'élément aussi le plus étonnant dans l'histoire de ce livre.
Alors c'est l'histoire qui est derrière l'histoire, c'est-à-dire voilà. Qu'on pourrait un jour, quelqu'un peut-être racontera votre histoire, Émile Ferris, et ce qui est derrière. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'on vous découvre comme une jeune auteur, autrice de bande dessinée. Or, vous avez déjà beaucoup d'années de création derrière vous, mais c'est comme si ce moment avait été celui d'une renaissance, celui où vous êtes dit, tout d'un coup, il faut que je fasse quelque chose qui va marquer. Et j'imagine qu'on ne se lance pas dans une aventure de 800 pages comme ça. D'abord, est-ce que vous saviez déjà que ce livre serait aussi volumineux, pour ne pas dire monstrueux? Et qu'est-ce qui a déclenché, voilà, ce moment où vous vous êtes dit, il faut que j'y aille?
Un désir de revanche, peut-être.
Comme chez les monstres, quelqu'un, l'Émile Ferris, autrice de bande dessinée, était caché en vous depuis longtemps et n'attendait que ce moment extraordinairement dramatique pour surgir dans toute sa puissance.
Someone said something to me yesterday. His name was Bertrand, and he said.
Un certain Bertrand m'a dit ceci.
There's the word curse in English and the word cure.
Curse en anglais et le mot cure, donc la cure et l'injure, l'insulte. À une lettre près, c'est le même mot. Moi, j'ai subi cette piqûre de moustique. Karen, elle veut être piquée. La piqûre, je la voulais, je l'ai eue. Alors, c'est vrai que cette piqûre m'a transformé en monstre. Cette piqûre m'a rendu incapable de choses que je savais faire auparavant. Était-ce une cure ou est-ce que c'était au contraire un sort qui était jeté? C'était une cure. Peut-être parce que ça m'a permis de changer de travail. Je travaillais à la maison, chez moi, je ne faisais pas grand-chose d'intéressant, et c'est devenu un remède. Et j'ai dû surmonter la paralysie de mon corps pour produire ce livre. Et il fallait que ça soit ainsi. Aujourd'hui, rétrospectivement, je me dis que lorsque quelque chose de terrible vous afflige, eh bien à ce moment-là, vous devenez différent.
Or courted,
pas forcément selon les désirs que vous aviez envisagés, mais comme le loup-garou, vous retrouvez sur une nouvelle trajectoire, une nouvelle voie, et c'est un nouvel art qui vous est livré.
There's an aspect of faith.
Il y a un aspect de foi là-dedans. À chaque pas que l'on prend, on bâtit un pont. Je ne savais pas, moi, j'avançais pas à pas. Mais il faut savoir faire un pas dans le vide. Il n'y a rien quand on fait le premier pas, ni le deuxième, et ainsi de suite. l'avance, mais on bâtit un pont. Et ce livre et le succès de Karen, c'est une surprise immense pour moi, mais j'en suis ô combien reconnaissante.
Alors je repose la question, même si vous y êtes allé pas à pas, quand est-ce que vous avez su que ce livre ferait 800 pages? Est-ce que c'était déjà dès le départ du projet, ou est-ce que c'est la prolifération des histoires, parce que c'est un livre absolument rhizomatique, enfin qui tout en suivant une ligne droite tendue comme une flèche, a une infinité d'histoires contenues en elle. Est-ce que vous saviez déjà où vous alliez?
When I was working on the book, there was a halfway house that was only one door down from me,
chez moi,
and most of the people that lived there were entirely mad.
I mean, what you would call mad, mentally ill. But I felt very at home with them, and I would meet with them on the street, and frequently they would say extremely brilliant things to me that I needed to hear. Bavardé, et me disait des choses extrêmement brillantes.
Had identified une de ces personnes
qui avait,
and he said some profound things to me.
Qui m'avait dit une chose très profonde. Et c'était le cas pour pas mal d'hommes. Alors, il y a un homme qui se prenait pour Jésus et qui nous accueillait comme tel, mais moi, je ne me sentais pas différente parce que lorsque l'on tente la création d'un livre en dessinant au stylo bille, on se retrouve dans cette folie. Personne ne va vous croire. Est-ce que les gens voudront vous lire quand vous le faites? Est-ce qu'il faut travailler 14 heures par jour et insister? Est-ce que c'est une obsession? Est-ce que c'est de la folie? Alors, il y a du beau et il y a de la folie là-dedans. L'obsession peut être très belle, mais je ne savais pas pour répondre à votre question. Mais je voulais que ce livre existe. Je voulais le faire parce que je savais, après avoir été piqué par le moustique, que j'étais proche de la mort et que j'avais vécu des choses surnaturelles à l'hôpital. Et je suis devenue consciente du fait qu'il fallait que je donne quelque chose. Et voici ce quelque chose. Voici le cadeau que je rends.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Qui est ce soir très heureux de recevoir avec notre ami Antoine Guillot, Émile Ferris, pour Moi ce que j'aime c'est les monstres, livre premier aux éditions Tout ça, l'ouverture.
Alors on vient de vous entendre, Émile Ferris, prononcer le mot d'obsessionnel et dire que vous avez utilisé un stylo bille, parce qu'on n'a pas décrit l'aspect graphique de ce livre qui a des moments en noir et blanc, mais qui la plupart du temps est en couleur, avec une utilisation donc de ce stylo bille multicolore qui, par l'adjonction des couleurs juxtaposées les unes aux autres, je parlais de ce visage bleu-violet au début, mais pour ça il faut mettre du bleu, du rouge et beaucoup de hachures, d'une manière aussi obsessionnelle qu'à Robert Crumb, et qui donne non seulement un modelé extraordinaire à vos personnages, mais qui donne l'obsession. Justement, on vous imagine sur une page faire ces hachures comme ça, comme si ça vous mettait en transe, comme si c'était une activité auto-hypnotique. Alors pourquoi le choix de ce stylo bille multicolore qui peut être, on se dit, celui utilisé par Karen? C'est un outil d'enfant quasiment, c'est ce qu'on a dans la trousse de tous les écoliers.
The benefit, this is the cure and the curse going
on revient
to that idea.
À la cure et à la maladie. J'ai perdu de la dextérité, notamment dans ma main droite. Aujourd'hui, je n'ai pas la même dextérité, même aujourd'hui. Donc, je ne pouvais pas dessiner comme le font la plupart des artistes de romans graphiques. Donc, il a fallu que je fasse de petits traits. Mais en ce faisant, je me suis rendu compte que je donnais à chaque ligne, à chaque trait, une qualité émotionnelle. Et j'espère que l'on retrouve ça dans le livre, parce que l'on peut vivre l'esprit dans lequel le dessin a été fait, parce qu'il a fallu énormément de lignes en raison de ce manque de dextérité. Donc je modelais, comme vous dites, je sculptais plus que je ne dessinais. C'était l'impression que j'avais.
Et puis un autre élément extrêmement frappant pour quelqu'un qu'on découvre, donc on pourrait s'imaginer novice en bande dessinée, oui, c'est que ce n'est, généralement dans la bande dessinée, il y a un axe directeur qui serait soit une histoire qui est très forte, qu'ensuite on va illustrer, ou alors des dessins absolument flamboyants dont l'histoire est presque le prétexte. Ici, on a vraiment une pensée globale de ce qu'est la bande dessinée, c'est-à-dire un rapport sans arrêt entre une image et un texte où l'image, vous parliez de hiéroglyphes tout à l'heure, peut être signifiante et où le texte est lui-même une matière graphique. Et il faut saluer le travail d'adaptation des éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, qui a retrouvé par le lettrage la force qu'il y avait dans les originaux. Comment est-ce que vous pensez ces pages que vous faites? Est-ce que le texte et image sont pensés en permanence de manière simultanée? Est-ce qu'il y a un scénario que vous écrivez au départ, que ensuite vous allez illustrer. Enfin, comment ces pages naissent?
It's an extremely intuitive process.
En réalité, je travaille par intuition. Bien souvent, je ne savais pas comment les choses allaient progresser. J'avais une petite idée de là où je voulais aller, mais je ne savais pas ce que cela allait devenir. Je ne savais pas comment la page allait prendre forme. J'ai permis à la passion et au poids des images de s'imposer à la composition de la page. Et donc, ça résulte d'un désir. Alors, s'il y a une image que je veux absolument dessiner, je sais que c'est ça qu'il faut faire, parce que moi j'ai une passion pour ce moment-là et le visage que je dépeins. Je veux que ça soit cela qui prédomine. Il y a une page d'ailleurs où l'on voit Anka qui a subi une tragédie et on voit des fleurs qui entrent en conflagration avec le personnage. Et il faut que l'on comprenne la brutalité du moment. Et c'est comme ça que cela doit être. Et quand je vous dis ça doit être comme ça, c'est mon intuition qui me le dit, mais je ne le savais pas. Et encore 6 mois, je ne connaissais pas la fin de ce livre. Et tout à coup, j'ai reçu une vision de la fin. Elle m'est venue. Et c'est pourquoi j'ai dû remettre à plus tard la fin de mon deuxième volume. Du reste, j'ai dû terminer rapidement parce que je manquais d'argent et mon propriétaire était en train de me jeter en dehors de mon appartement. Donc, il fallait que je termine rapidement pour recevoir le paiement de mon éditeur d'origine. Et je savais que j'allais recevoir l'inspiration plus tard. Donc, j'ai fait confiance à mon intuition et oui, la fin m'est bel et bien venue ultérieurement. Donc, pour répondre à votre question, encore une fois, tout est intuitif. Je laisse les choses venir à moi.
C'est pour ça qu'il y a des moments d'accélération graphique où tout d'un coup on sent que vous n'avez plus le temps de faire des hachures, que vous n'avez plus le temps de modeler vos personnages et qu'il y a ces moments quasiment uniquement en noir et blanc, très rapides, presque esquissés, parce que voilà, il y a une urgence à raconter ce moment-là presque avant qu'il ne s'échappe.
You're touching on something very interesting.
Oui, vous mettez du doigt quelque chose de très intéressant. Quelque chose que vous avez évoqué préalablement, François, lorsque Deez, le frère de Karen, la met face au miroir, on en parlait en micro. Lorsque vous regardez ses mains ne sont pas correctes sur le plan, elles ne sont pas justes sur le plan anatomique. C'est un petit peu comme les barreaux d'une prison, tout à fait droites, rigides et fermes. Et ainsi, elles sont alignées comme les doigts sont alignés comme les barreaux d'une cellule de prison. Donc, faut qu'elle choisisse. Est-ce que vous êtes ce que je dis que vous êtes? Est-ce que je vis dans la prison de votre perception, ou est-ce que j'essaye de me libérer, de m'affranchir? C'est ça la grande question qu'elle se pose. Donc, c'est un petit indice, hein, celui que je vous dis là. Et ça informe le texte. On ne peut pas écrire ça. Il faut le dessiner, et encore une fois, moi, ça me vient.
Alors, ce qui est un autre élément important, donc il y a effectivement, on a évoqué l'aspect graphique. Sur l'aspect, je dirais, purement narratif, Karen, l'héroïne, avec le personnage de sa mère, qui est un personnage aussi assez très, très étonnant, avec des superstitions, un personnage bouillant. Son frère Deeds, elle est aussi, qui est un grand coureur, personnage aussi très, très étonnant. À un moment, Karen enquête, se lance dans une grande enquête qui fera d'ailleurs le fil rouge du livre sur la personnalité mystérieuse de Anka, sa voisine du dessus, qui est morte, abattue d'un coup de pistolet dans des circonstances très étranges. On pense un peu au meurtre en chambre close. Il y a là un mystère, mais le premier mystère, c'est le mystère d'Anka. Et à l'aide de cassettes souvenirs qu'elle avait enregistrées, on remonte le passé de ce personnage et on découvre avec lui l'Allemagne de Weimar dans ce qu'elle avait de pire, c'est-à-dire l'Allemagne bien au-delà du cabaret de Bob Fosse, l'Allemagne des bordères pédophiliques, l'Allemagne où on trafique de tout, où la puissance est totalement débridée, la puissance est énorme de la bourgeoisie, des trafiquants, du marché noir. On trafique des enfants comme on trafique de l'argent, des matières premières, du pouvoir. Et ensuite, eh bien, ce sera l'avènement du nazisme, la déportation. Donc tout cet univers apparaît par cette simple petite cassette. Et j'ai pensé, en lisant donc votre livre, Émile Ferris, à l'univers des artistes de Weimar, et notamment dessinateurs comme Grose, par exemple. Todix, Grose, et un photographe comme August Zander, qui photographiait les Allemands de l'époque, mais de manière frontale, comme ça, quasi très réaliste et en même temps parfaitement hallucinatoire. Il a fait tous les corps de métier. Alors il y a un célèbre notaire avec son Doberman, il y a un porteur, un maçon qui porte des briques, il y a un commis boucher, il y a même, je crois, un sous-officier nazi. Je voudrais savoir un peu la place qu'a cet univers qui est énorme, qui prend une grande importance dans votre livre, dans votre démarche artistique. Autodix, Gross, Zander, même Fritz Lang, pourquoi pas. Le docteur Mabuse, après tout, Karen est pas loin du docteur Mabuse.
D'ailleurs, Anka a vu Metropolis.
Ben voilà, donc on est...
Alors, tout cela, ça a eu un impact énorme sur moi, l'expressionnisme allemand. C'était une expérience. J'entrais dans les tableaux. Et ça me coupait le souffle. Ça coupait le souffle à l'enfant que j'étais, parce que c'était une époque de perversion, mais aussi de beauté. Et moi, je voulais saisir cela, parce que j'avais l'impression que Karen comprendrait cela. Moi, j'ai vécu la même chose. J'ai vu les chiffres tatoués sur l'avant-bras de la mère d'une amie. J'ai vu ça. Et ça, on ne le voit pas très souvent. Hein. Pourquoi est-ce que cette personne est numérotée? Pourquoi une personne serait-elle numérotée? Et j'ai vu ça en forme. Hein. Donc, on entre dans cet univers et tout cela, ça a précédé ce moment et ça l'a renseigné aussi. Et je crois qu'il s'agit d'un moment où les villageois se confrontent aux monstres. Voilà. Donc c'est magnifique, un moment comme ça. En France, vous savez de quoi je parle dans toute cette culture. Et donc ça nous ramène à ces monstres, à cette époque où il y a une intense dégradation et intense liberté. Il y avait des quartiers pour les lesbiennes ou pour les homosexuels. Il y avait des cultures consacrées à la liberté sexuelle. Et il y a ensuite le retour de manivelle, d'où les chiffres sur l'avant-bras. Et moi, enfant, je découvre ça, et c'est mon intuition qui me permet de déchiffrer ça dans les tableaux. Vous entrez dans une scène de Georges Gross, et tout à coup, vous comprenez. Il y a toute cette douleur de la Première Guerre mondiale. Il y a toute cette blessure, toute cette peur, cette anxiété, ce désir de liberté, de passion et de vie. Et la vie d'Anka, c'est une mission d'un abîme, mais elle vit cela, elle. Et ça se reflète dans sa vie à elle aussi, parce que ça fait partie des années 60, ça, D'ailleurs, il y a cette liberté, mais il y a aussi le retour de manivelles fascistes. Moi, j'étais enfant, je voyais les protestations, je voyais la violence dans les rues, les visages ensanglantés. Donc, on voit que ce désir de liberté fait l'objet d'un retour de manivelles très violent.
Oui, et c'est là que, comme vous le disiez tout à l'heure, François Angelier, ce livre est d'autant plus passionnant qu'il pense le siècle. C'est-à-dire qu'il pense vraiment, il arrive à faire une confrontation pleine de sens entre les mouvements qu'il pouvait y avoir à la fin des années 60 aux États-Unis et à Chicago en particulier, et ce qui s'est passé en Europe et en Allemagne au tournant du siècle. Mais pour revenir sur le côté autodix Georges Grosz, ce qui est très fascinant, c'est que vous nous faites à ce point rentrer dans la tête de Karen, de ce personnage, que nous nous mettons à voir le monde comme elle. Et nous comprenons très bien qu'un enfant qui a découvert récemment au musée du Georges Grosz ou du Autodix, quand elle va entendre cette voix racontant les années 20, elle va la peupler d'images issues directement de ces peintures. Comme si vous nous montriez aussi que aussi bien la fréquentation des comics d'horreur et la dimension consolatoire que ça peut avoir, c'est-à-dire s'identifier aux monstres que tout le monde pourchasse avec une torche à la main ou avec un pieu, et la fréquentation du musée permet d'avoir une vision du monde comme pour pouvoir l'apprivoiser, et y compris apprivoiser les pires horreurs du siècle, puisque ce que vous racontez, effectivement, des années 20, vous vous arrêtez à l'entrée des camps de concentration. Hein, ouais. On sent que voilà, Art Spiegelman pense beaucoup de bien de ce que vous faites. Il faudrait presque prolonger ce livre en relisant Mauss, mais toute l'horreur est racontée et visualisée par le biais de l'art. Et ça, cette dimension presque à la fois consolatoire de l'art et cet outil qui nous permet de nous représenter même l'irreprésentable, et pour moi tout le sel de votre livre.
Émile Ferris.
That's such an interesting observation. You know,
merci de cette observation si intéressante. Quand j'avais 6 ans, je pleurais parce que le film The Wolfman a une fin tragique. Et moi, j'ai pleuré sans savoir pourquoi. Voilà un homme dans toute sa, enfin, un être dans toute sa beauté, et les villageois ne comprenaient rien à la difficulté que cet homme, cet être a vécu. Donc, je reviens aux chiffres sur l'avant-bras que j'ai découvert quand j'étais enfant. Mais en créant ce livre, j'ai découvert que l'homme qui a écrit le film, The Wolfman, était lui-même un juif allemand qui avait fui l'Allemagne d'Asie, Kurt Sonneborn. Et lorsque le pentagramme apparaît dans la main d'une victime, c'est parce qu'il fait référence à cette idée de l'étoile de David, ce symbole qui a une signification positive, mais lorsqu'elle est utilisée par les villageois, n'a qu'une connotation négative. Et ça montre de la malédiction, la mort. Par conséquent, j'ai découvert cela et je me suis rendu compte qu'il y avait cette signification parallèle chez Kurt Sonneborn. Et là, je me suis rendu compte combien de symboles ont des pouvoirs comme cela. C'est intéressant que vous ayez signalé cela, et j'ai intégré ça dans le livre, oui. Et j'ai essayé de percer ces mystères en regardant George Grosz et Autodix. À l'Art Institute, il y a un paysage, j'oublie le titre, mais c'est l'un des tableaux les plus puissants. C'est une contemplation intéressante sur ce qui s'est passé en Allemagne. C'est un paysage, il n'y a rien, il n'y a pas de personne. C'est un arbre qui a été frappé par la foudre et les feuilles sont en couleur rouille, un peu comme du sang séché. C'est terrible. Et c'est ça que voit Karen quand elle va au musée.
Émile Ferris est l'invité ce soir de Mauvais Genre. Pour moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Et nous aussi, ce qu'on aime, ce sont les monstres. Livre premier aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui est vraiment l'événement graphique de cette rentrée 2018. Autre événement graphique à venir, Antoine Guillot, c'est effectivement Richard Corben.
Richard Corben à Angoulême. Richard Corben, président du Festival d'Angoulême. Alors, le Festival d'Angoulême vient de dévoiler son affiche, traditionnellement signée par le récipiendaire du Grand Prix de la ville d'Angoulême de l'année précédente. Alors, pour ceux qui aiment chez Richard Corben les guerrières aux poitrines opulentes et quasiment totalement dévêtues, eh ben, ils en auront pour leur argent, puisque sur l'affiche du Festival d'Angoulême, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jeune garçon en train de lire Tales of the Crypt et autres comics d'horreur, donc il ne déparerait pas dans la collection de Karen chez Émile Ferris, avec un visage à la fois extatique et horrifié qui ouvre de grandes aventures. Et alors, ces livres, ces comics d'horreur, Richard Corben y revient. Il est revenu avec une série qui s'appelait Shadows on the Grave, qui vient d'être traduit en français chez Delirium. Et je pense que
merci Delirium une fois de plus.
Et son éditeur Laurent Lerner auront fait beaucoup pour rappeler que Richard Corben était toujours là et pour que les auteurs de bande dessinée votent pour lui, pour lui donner le grand prix de la ville d'Angoulême. Alors, ça s'appelle en français Grave. Grave, les contes du cimetière, ou Grave en anglais, qui est la tombe. Et c'est vrai que les deux sens sont là, parce que c'est un livre qui est pesant, lui-même est extrêmement volumineux, et c'est le livre de la pesanteur terrestre. Il y aura beaucoup de cimetières, et il y aura beaucoup ces coins du Midwest qu'aime beaucoup Richard Corben, parce qu'il vient de là, il vient du Missouri, maintenant il est installé dans le Kansas, et ça se passe dans un univers de, je parlais des hillbillies tout à l'heure, c'est-à-dire des blancs dégénérés, des forêts profondes du Midwest. Alors l'histoire récurrente, c'est des êtres cupides qui arrivent à la recherche d'un héritage ou d'un trésor, ou qui veulent détrousser les pauvres gens et qui vont se retrouver aspirés par des forces démoniaques et extrêmement sympathiques. C'est-à-dire que comme chez Émile Ferris, on est toujours du côté du cadavre pourrissant, du vampire, de la goule et de toutes sortes de choses dans cet univers toujours très terreux. Hein. Il y a de la glaise.
Gothique et rural.
Il y a de la glaise dans le dessin de Richard Corben. Avec, il n'y a pas beaucoup de couleurs dedans. C'est des nuances de gris extraordinaires. Shadows on the Grave, les ombres sur le cimetière.
Émile Ferris, vous êtes amateur, grande amatrice de Richard Corben.
Oh yeah. Very much. You know, I think it's interesting. You say he lives in Kansas.
Il vit au Kansas, dans le Kansas, vous dites.
Ah, c'est intéressant.
Aux États-Unis, nous sommes hantés. Vous aussi, vous avez plein de fantômes ici, j'en suis sûr.
Tout à fait.
Mon Dieu, le terrorisme, la terreur, oh là là. Mais bon, nous aussi.
You know, even the Bible says that
Bible,
the blood of the innocent cries out to God from the ground. You know,
and this is not something that says stops after a while. Depuis la terre. Et ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Moi, j'aime bien vivre dans une maison hantée parce que nous avons chez nous les fantômes du passé qui ont vécu le passé. Grâce à l'horreur et grâce au pulp, on peut parler de choses véritablement terrifiantes, mais on peut les envelopper de beauté de telle sorte que l'on puisse les regarder.
Et puis, alors, deuxième livre, vous nous parliez tout à l'heure des vieilles personnes juives que vous pouviez rencontrer à Chicago. Et il y a une biographie formidable. On est dans l'histoire de la bande dessinée en bande dessinée. Ça s'appelle Joe Shuster, un rêve américain. Figurez-vous que Superman a 80 ans cette année. Hein, il a été créé en 1938. Et si je vous demande, François, d'où vient Superman, vous allez me dire, il vient de Krypton. Eh bien, pas du tout. Il vient de Cleveland. Cleveland dans l'Ohio. On parle encore de l'Amérique profonde. Deux jeunes hommes issus d'une famille d'immigrés juifs venus de Russie ou de Lituanie, Joe Shuster et Jerry Siegel créent ce surhomme, ce golem qui va être la toute-puissance et qui va lancer toute l'industrie des super-héros. Il n'y avait pas de super-héros avant Superman, et ce livre raconte, il s'appelle Un rêve américain, mais il pourrait s'appeler Un cauchemar américain, comment ils ont tous les deux vendu pour $130 à leur éditeur les droits absolus sur Superman. C'est-à-dire qu'ils ont créé ce qui a rapporté des millions et des millions de dollars à des éditeurs new-yorkais plus ou moins liés à la mafia, des anciens bootleggers et éditeurs de revues pornographiques, et ils ont passé leur vie à essayer de toucher un petit pourcentage de cet argent. Ils finiront par Oscar l'obtenir quand le film de Richard Donner, l'adaptation de Superman, est produit par la Warner Bros, qui a très peur d'une mauvaise publicité. Des auteurs de bande dessinée comme Neil Adams, toute la jeune vague, vont être là pour les défendre et enfin leur permettre de sortir quasiment de la clochardise, parce que tel qu'il est présenté, Joe Chuster, au début, c'est un pauvre type qui dort sur un banc, qu'un policier va réveiller, va lui offrir un petit déjeuner, et pour le remercier, il va dire « Oh, je vais vous faire un petit dessin, avant j'étais dessinateur », et il se met à dessiner sous les yeux des enfants incrédules le personnage de Superman. Et oui, ce clochard Joe Chuster, clochard de génie, avait créé Superman avec son ami Jerry Siegel. C'est Joe Chuster, un rêve américain, c'est paru chez Urban Comics.
Merci Antoine, on termine cette émission avec un autre grand ami des monstres, Christophe Beer.
Jeune américaine arrivée à Paris en 1971, Jan Evelyn Atwood aborde la photographie 4 ans plus tard par l'univers de la prostitution rue des Lombards au cœur des Halles. Ce travail la fait connaître et détermine toute sa démarche artistique. S'immerger longtemps, patiemment, dans des mondes difficiles, porter une attention et une curiosité quotidienne, se lier d'amitié, éprouver de la compassion, se placer résolument du côté des réprouvés auxquels elle rend leur dignité. Là où personne n'ose affronter la peur et le désespoir, elle s'aventure, s'absorbant dans ses sujets de façon obsessionnelle. Publié par Le Bec en l'air en un beau volume toilé maquetté par l'artiste, Pigalle People sélectionne 70 photos prises en 1978-79 qui illustrent cette proximité des marges. La faune des prostituées transsexuelles dans le bas du boulevard de Clichy lui ouvre les portes cochères d'un Pigalle grouillant d'une vie interlope, dans l'odeur grasse des frites de la fête foraine, le vacarme de la circulation, les éclats de rire des noctambules assoiffés et l'excitation de la violence. Atwood déambule dans les petites rues, là où les bars deviennent des bouges minuscules, où les murs des chambres suintent la décrépitude, où les trans racolent sous les porches pour 100 francs la passe. Elle découvre la monumentale Ingrid, ses jambes interminables, sa chevelure rousse de vamp fatale et ses bras amochés par les shoots d'héroïne. Mais elle traîne souvent avec Miranda, provocante beauté au maquillage épais, et Nouja, suicidaire, que sa mère et les psychiatres ont voulu guérir de son homosexualité quand elle était un garçon. La drogue, la folie, la mort hantent les pages en arrière-plan, mais Jan Evelyn Atwood s'attache à des instants parfois mélancoliques et peu spectaculaires, d'une douce fragilité, corps alanguis dans la nuit, effusion de tendresse. Pigalle est alors un flamboyant et dérisoire palais des illusions, un spectacle sauvage dont elle capte aussi des éclats. Comme la façade illuminée du cinéma porno Alpha Blanche, annonçant fièrement « Je suis à prendre », les prostituées trans sont un spectacle de rue, arpentant le bitume, fardées comme des stars, la cuisse savamment exhibée, aux fumes-cigarettes dédaigneux, aguicheuses dans les entrées d'immeubles d'un Paris sans interphone qui ne craint pas les aspérités. Atwood a approché de près ces trans, scrutant derrière le strass. « Il y a, écrit-elle en postface, un chagrin au plus profond d'elle, trop profond pour être enregistré par un appareil photo, presque trop enfoui pour y accéder avec des mots. C'est intime et confidentiel, un secret même pour elle. »
Merci Christophe Beer, merci Émile Ferris d'avoir accepté notre invitation et dites-vous bien que vos monstres sont désormais les nôtres et que l'on recommande bien évidemment chaudement, c'est moi ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Émile Ferris, les livres premiers, le deuxième attendu impatiemment aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture.
Et dont il faut aller voir les originaux en ce moment à la galerie Martel à Paris.
Absolument, Richard Corben, Grave, Les Contes du Cimetière, c'est chez Delirium. Joe Chuster, Un rêve américain, c'est aux éditions Urban Comics, le week-end Zappa, donc dans 10 jours à la Philharmonie de Paris, à ne pas manquer toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Benjamin Villal, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Antoine Guillot, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous samedi prochain dans Mauvais Genre avec Marie-Mathilde de Malfilâtre pour Babylone Express aux Dilettantes. Et d'ici là, bonne nuit à tous.